Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment utiliser la matrice de Trees pour résoudre un problème technique. Tout d'abord, parlons de cette matrice de résolution de Trees. Et d'ailleurs, à quoi sert-elle? Eh bien, la matrice de Trees vous permet d'accéder directement à une sélection de principes d'innovation pour résoudre la contradiction qui limite les performances de votre système. Les principes d'innovation de Trees peuvent être utilisés de manière libre ou orientée vers une action voulue. Ici, vous voyez, on cherche plus à les utiliser pour répondre à un problème technique bien identifié. Dès lors, cette matrice vous aide à aller droit au but en vous offrant une porte d'entrée dans la liste des 40 principes d'innovation. L'idée in fine est de vous faire gagner du temps dans la résolution de votre problème technique. On peut dire que la matrice est une sélection de principes qui est ordonné. C'est le résultat de l'étude qu'a menée Genrich Altschuler, l'inventeur de la méthode Trees, suite à l'examen de 40 000 brevets. Il a observé que des problèmes analogues étaient résolus par des solutions identiques, quel que soit le domaine d'application. L'air de rien, cette matrice est vraiment la synthèse d'un savoir-faire de milliers d'inventeurs provenant de domaines différents. Les principes, qui sont des pistes de résolution, sont classés selon la problématique à résoudre qui se définit selon Trees par une contradiction. Alors, à quoi ressemble cette matrice de résolution de problèmes? Il s'agit d'une matrice carrée construite sur la base de 39 paramètres normés, vous voyez, rien que ça, et bien tout ça vous permettant de décrire la contradiction que vous cherchez à résoudre. Sur l'axe vertical, vous trouverez une liste de paramètres décrivant l'effet positif à préserver ou à améliorer. Et puis sur l'axe horizontal, vous retrouverez la liste de ceux décrivant l'effet négatif à éliminer. Alors comme je vous le disais, la liste est limitée à 39 paramètres, donc l'idée est de trouver ceux qui se rapprochent le plus de votre problématique. Puis à l'intersection de deux paramètres choisis, se trouve une proposition de principe d'innovation qui sont censés répondre au mieux au problème posé. Si vous voulez, vous devez voir cette proposition comme une suggestion à forte probabilité de résolution, tenant compte de l'art antérieur, et vous vous en doutez, c'est pas vraiment une vérité absolue. En réalité, la matrice suggère plus des pistes de résolution, mais ne donne pas véritablement de solution à proprement parler. Alors voyons maintenant quels sont les paramètres qui vous permettent de rentrer dans cette matrice. Il s'agit donc d'une liste de 39 paramètres standards qui permettent de caractériser votre contradiction. Chaque paramètre est précédé de son numéro de référence et est formulé par une expression générique. Alors quelquefois, il n'est pas toujours évident de trouver les bons paramètres pour décrire votre contradiction. Alors je vous rassure tout de suite, c'est normal au début, ne vous en faites pas. Avec la pratique, les choses deviennent beaucoup plus évidentes. Puis le fait aussi de les avoir listées, lues une première fois, vous avez plus de facilité pour savoir où vous en êtes et puis choisir les bons directement. Et puis c'est la raison pour laquelle vous découvrirez aussi dans la liste qui suit d'autres termes susceptibles de faciliter la sélection du paramètre adéquat. On va maintenant passer en revue les 39 paramètres standards. J'attire votre attention sur leur formulation et les termes utilisés, car vous voyez, l'air de rien, ils représentent une bibliothèque de termes qui caractérise un problème potentiel. J'ai envie de vous dire qu'il est toujours intéressant, si vous voulez, d'enrichir son vocabulaire pour mieux s'exprimer et se faire comprendre plus facilement. C'est donc pour vous une aide précieuse pour décrire avec justesse ce qui pose problème dans votre système. Et puis dites-vous qu'un problème bien décrit est bien souvent un problème à moitié résolu. Allez, c'est parti, on va commencer donc cette liste de 39 paramètres standards. Et le premier paramètre, est la masse d'un objet mobile. Alors ça peut être aussi, vous voyez, son poids, sa charge ou la notion de légèreté, tout simplement. Et puis on retrouve le même paramètre avec la masse d'un objet statique, cette fois. Un autre paramètre est la longueur d'un objet mobile. Derrière cette notion, on retrouve l'aspect dimensionnel, donc ça englobe aussi la largeur, la profondeur, la hauteur, mais également la notion de distance, de portée ou même d'angle. Et on retrouve le même paramètre avec la longueur d'un objet statique. Ensuite, il y a la surface d'un objet mobile. Alors là, ça peut être aussi quelque chose de plus large, hein, comme une région, ou alors plus limité sur une zone, voire même un point de contact. Et on retrouve le même paramètre avec la surface d'un objet statique. Le septième paramètre est le volume d'un objet mobile, donc ça concerne aussi la notion de taille, d'encombrement ou de contenance, et là aussi on retrouve le même paramètre avec le volume d'un objet statique. Ensuite il y a la vitesse, là ça concerne aussi, vous voyez, les effets dérivés, hein, tels que l'accélération ou la décélération. Puis la force ou l'intensité qui englobe aussi les phénomènes d'action ou de réaction. On pourra aussi parler de charge ou de phénomènes dynamiques, hein, comme l'inertie ou alors l'aspect électrique comme le voltage. On retrouve aussi la tension ou la pression et d'autres termes associés comme la compression ou les phénomènes de plasticité, hein, quand on parle de matériaux. Ensuite, il y a la forme qui peut concerner la géométrie de l'objet, son profil ou tout simplement son apparence. Le 13e paramètre concerne la stabilité, qui pour un matériau peut se rapprocher de son homogénéité ou de sa consistance. Ça peut concerner aussi des phénomènes plus dynamiques comme l'inertie ou alors chimiques comme l'oxydation. On va parler aussi de la résistance et de termes associés comme la déformation, la fragilité et la solidité. Puis il y a aussi, vous voyez, la durabilité d'un objet mobile. Donc là, ça englobe aussi des notions de période, de fréquence, d'intervalle, de phase ou de temps de réponse. Et puis on retrouve le même paramètre avec la durabilité d'un objet statique. Ensuite, on aborde la température, qui concerne aussi, eh bien, tout simplement le chauffage, le refroidissement, ou les phénomènes tels que la conduction, la convection, le rayonnement, mais aussi, vous voyez, l'isolation ou le point de congélation, de fusion ou d'ébullition. Vous voyez, c'est assez large en quelque sorte. Le 18e paramètre est la brillance, qui concerne aussi la clarté, la tonalité, la couleur, ou les phénomènes d'illumination, de réflectivité, de visibilité, ou au contraire, de camouflage. Il y a aussi l'utilisation d'énergie par un objet mobile, qui englobe la notion de consommation, de chauffage, là aussi, vous voyez, de refroidissement ou de type d'énergie en lien avec des calories ou l'électricité. Et puis on retrouve le même paramètre avec l'utilisation d'énergie, cette fois-ci par un objet statique. Ensuite, on parlera de la puissance, qui peut s'exprimer à travers la notion de courant, d'impulsion, d'intensité, d'action ou alors d'accélération. Et puis un autre paramètre est la perte d'énergie, qui peut concerner une friction, une dissipation, une turbulence, voire une interférence. Le 23e paramètre est la perte de substance, alors qui concerne aussi la notion de fuite, d'usure, de déchet, d'abrasion, d'absorption, de rejet ou même de dépôt. Il y a ensuite la perte d'information, qui là peut se traduire par une interférence ou une perte de propriété, si on parle de matériaux, et ça peut aussi concerner la notion de feedback, tout simplement pour un système complet qui fonctionne, vous voyez, de manière autonome. On retrouve aussi la perte de temps. Ici, on pourra parler de retard, de répétition d'efforts ou d'activités redondantes inutiles. Un autre paramètre est la quantité de substances, qui là concerne aussi la densité, le nombre de particules ou tout simplement le nombre de pièces. Ensuite, on retrouve la fiabilité. Là, on pourra parler aussi de durée de vie, de délai moyen, de maintenance, de taux de défaillance ou même de durabilité. Le 28e paramètre correspond à la précision de mesurage, mais ça concernera aussi des notions de tolérance, d'erreur, de répétabilité ou de régularité. Ensuite, la précision de fabrication, qui là, vous voyez, englobe aussi la notion de tolérance, de finition ou la notion d'intégrité. Puis est proposé aussi un effet ou un facteur néfaste à l'objet. Là, vous voyez, ce sont des effets qui sont indésirables, ça peut concerner aussi des problèmes d'adhérence, de contamination, ou alors les dégâts provoqués par l'environnement, comme les effets du soleil, par exemple, ou la présence de poussière. Alors, il est aussi proposé un paramètre qui concerne l'effet ou le facteur néfaste, cette fois-ci induit par l'objet. Donc là, on pourra parler aussi de contamination, mais aussi d'abrasion, ou les effets en lien avec nos cinq sens, hein, le goût, l'odeur, etc., etc. Et puis ça peut concerner aussi des effets secondaires ou des émissions nocives. Le paramètre 32 concerne la facilité de réalisation. Ça peut concerner la conception, la fabrication, l'assemblage, vous voyez, ou les notions de jointure. Et puis, ça peut également concerner le temps de mise en machine ou le changement d'outil. Ensuite, il y a aussi la facilité d'utilisation. Alors là, ça concerne la facilité d'emploi, la maniabilité, mais aussi la facilité de transport, ou plus précisément la transportabilité, ou alors la capacité de déplacement. Puis, un nouveau paramètre concerne la facilité de réparation. Donc là, ça va englober la maintenance, le montage, le démontage, l'accessibilité, le recyclage, la facilité de nettoyage ou de remplacement, la modularité ou même l'interchangeabilité. Puis on retrouve aussi l'adaptabilité qui la concerne plus des notions de polyvalence, d'universalité, la modularité également, mais aussi des notions de tolérance. Et enfin, on arrive sur les derniers paramètres, notamment la complexité du produit, ce qui peut aussi se traduire par le nombre de pièces ou d'interfaces. Ensuite, on retrouve la difficulté de pilotage, qui peut englober l'accès, l'emplacement, la visibilité, ou alors la notion de détection, ou la difficulté de trouver le bon paramètre à mesurer. Puis on retrouve le degré d'automatisation, qui là concerne des notions de robotisation ou de répétabilité d'une tâche. Et enfin, le dernier paramètre concerne la productivité. Ça peut être la valeur, tout simplement, ou alors un goulet d'étranglement identifié. Voilà, c'est la fin de l'énoncé des paramètres, donc c'était un peu long, mais je pense, vous voyez, que ça vaut la peine de comprendre ce qu'il y a derrière chaque paramètre. Eh bien, d'une part, ça permet de mieux utiliser la matrice, donc ça c'est déjà un gros plus, et puis ça permet d'avoir plus de cordes à son arc pour mieux expliquer le problème auquel vous faites face. Maintenant, on va voir comment utiliser cette matrice. La première étape est de formuler une contradiction technique. Pour ça, vous devez analyser votre système avec la plus grande attention pour mettre en évidence les relations entre les causes et les effets. Puis, eh bien, tout simplement sélectionner une contradiction pertinente à résoudre, c'est-à-dire l'effet positif à préserver ou à améliorer, ainsi que l'effet négatif à éliminer. Alors pour bien comprendre, prenons un exemple vraiment tout simple. Si vous voulez augmenter les dimensions de cette table, pour que sa surface utile soit plus grande. Donc ça, c'est l'effet positif que vous voudriez préserver. Et bien en même temps, toute chose étant égale par ailleurs, vous allez en augmenter le poids inévitablement, qui va vous poser un problème pour la déplacer ou la transporter facilement. Donc ça, c'est l'effet négatif que vous voudriez éliminer. En somme, vous faites face à une contradiction technique. La deuxième étape est de choisir les paramètres standards. Donc pour ça, vous devez transcrire votre contradiction en utilisant deux paramètres parmi les 39 standards que nous avons vus. Je vous conseille de bien réfléchir au choix le plus juste. Ça vaut le coup vraiment, si besoin, d'y consacrer quelques minutes. Vous voyez, il arrive parfois que les paramètres standards traduisent mieux votre problème que ce que vous aviez imaginé au départ. Bref, laissez-vous cette petite latitude de reformuler votre problème si besoin. Alors si on reprend notre exemple de la table, donc la table par nature est un objet plutôt statique, donc l'effet positif à préserver est la surface d'un objet statique, et l'effet négatif, eh bien, est tout simplement la masse d'un objet statique. Éventuellement, voyons, on pourrait considérer que la table est mobile dans le cas de son déplacement, ou qu'il faille considérer plutôt le volume de la table et non pas sa surface. Donc là, vous mesurez, vous voyez que le passage du problème tel qu'on l'a représenté demande un peu de réflexion pour le traduire avec des paramètres standards. Mais vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. La troisième étape est de sélectionner les principes d'innovation. Pour ça, vous devez transposer les paramètres que vous avez choisis dans la matrice, puis identifier tout simplement les principes suggérés à la croisée des deux paramètres que vous avez considérés. Alors dans notre cas, pour ce qui concerne la table, il s'agit des principes numéro 30, la membrane flexible, le principe numéro 2, le principe d'extraction, le principe 14 qui concerne les courbes, et le principe 18 qui concerne les vibrations. Alors la première réaction est de se dire que ces principes sont plutôt surprenants, donc ça c'est normal. Mais il ne faut pas vous arrêter là, et au contraire, il faut vous laisser vraiment vous imprégner par ces suggestions. La quatrième étape est de transposer les principes à votre cas. Pour ça, il vous suffit de lire la formulation de chaque principe d'innovation et également les sous-principes qui y sont rapportés. Alors le principe numéro 30 qui concerne la membrane flexible. Donc la question est la suivante, comment pouvez-vous isoler ou protéger votre produit par un film? Il y a aussi donc des sous-principes comme remplacer les structures tridimensionnelles par des membranes souples ou des films minces, ou alors isoler ou protéger le produit de son environnement en utilisant des membranes souples ou des films minces. Donc là, vous voyez, c'est plutôt le premier sous-principe qui va nous inspirer. Les autres, je trouve, sont pas très pertinents par rapport au cas qui nous concerne, donc la table en l'occurrence. Donc là, vous voyez un croquis qui illustre une table avec une toile tendue renforcée par des lattes. Donc ça pourrait être utile, par exemple, pour une table légère de randonnée, par exemple. Puis, le deuxième principe suggéré par la matrice est le principe numéro 2 d'extraction. Donc là, le principe est le suivant. Quelle partie de votre produit pouvez-vous enlever ou sacrifier? Puis on retrouve là aussi des sous-principes. Enlever une partie du produit ou alors extraire du produit une propriété perturbatrice ou utile. Pour illustrer l'usage de ce principe, vous voyez ici une table sans pied qui finalement est suspendue sur les accoudoirs de chaises. Ensuite, le troisième principe suggéré par la matrice est le principe numéro 14, le principe de courbe, qui est exprimé de la manière suivante. Qu'est-ce qui se passe si vous incurvez votre produit ou une de ses parties? Donc là aussi, on retrouve des sous-principes. Remplacer les droites par des courbes, les plans par des hémisphères ou les cubes par des sphères, vous voyez. Ou alors utiliser des disques, des rouleaux, des sphères, des spirales, des voûtes. Et enfin, remplacer les translations par des rotations ou utiliser les forces centrifuges. Alors pour illustrer l'usage de ce principe, vous voyez sur ce croquis une table qui se manipule facilement, un peu comme une brouette. Donc on retrouve des pieds fixes et droits. Et puis on retrouve un pied plutôt dynamique avec une petite roulette. Et on peut imaginer une poignée qui permet de soulever la table pour la déplacer plus facilement. Et enfin, le quatrième principe suggéré par la matrice est le principe numéro 18, le principe de vibration. Que se passe-t-il si votre produit rentre en vibration? Donc là, vous avez également deux sous-principes, faire osciller ou vibrer une partie du produit, ou alors, si l'oscillation existe déjà, eh bien vous pouvez augmenter la fréquence. Donc là, vous voyez, c'est déjà beaucoup moins évident, il semble plus difficile d'imaginer quelque chose. Mais ceci dit, on pourrait imaginer des pieds rapportés qui en même temps soient vibrants dès lors que l'on déplace la table, et on sait bien que les vibrations facilitent le glissement finalement d'une pièce par rapport à un support. Donc du coup, on pourrait très bien imaginer ce principe appliqué à la table. Alors ensuite, la cinquième étape, c'est de chercher des itérations avec d'autres formulations possibles. Donc par exemple, si on considère que la table est mobile lorsqu'on la déplace, dans ce cas, il s'agit des principes, vous voyez, en utilisant la matrice, il s'agit des principes d'extraction, d'autres dimensions, le principe numéro 29 de fluide, ou alors le principe numéro 4 d'asymétrie. Donc vous voyez sur ce premier croquis, par exemple, une table que l'on est venu suspendre sur une autre dimension, ce qui permet finalement de supprimer les pieds et de rendre cette table transportable plus facilement, quelle que soit sa dimension. Et puis, sur cet autre dessin, vous voyez une table qui finalement est gonflable et qui exploite le principe de fluide. Donc ensuite, on continue les itérations avec d'autres formulations qu'on imagine pertinentes. Vous voyez, si on considère plutôt le volume de la table plutôt que sa surface, dans ce cas, il s'agit des principes numéro 35, la valeur d'un paramètre, ou alors le principe numéro 10, l'action préliminaire, l'action périodique, et le principe 14, le principe de courbe qu'on retrouve là aussi. Alors quelques illustrations, vous voyez sur ce premier croquis une table pour laquelle on est venu jouer sur la valeur d'un paramètre, son épaisseur. Ces éléments sont constitués de parois fines et robustes, donc là l'idée est intéressante, mais reste à trouver le matériau qui est quelque chose peut-être de moins évident. En tout cas, ça illustre qu'une idée peut être pertinente, même si technologiquement, on n'a pas encore de solution ou de composants comme ça pour répondre finalement à cette nouvelle exigence. Et sur cet autre dessin, on est venu jouer sur un autre paramètre, cette fois la densité de la matière. Donc là, on pourrait imaginer un matériau à faible densité, donc plus léger, mais avec des effets de peau pour que la surface soit dure localement. Donc là, évidemment, l'exercice d'idéation est limité dans ma présentation à quelques exemples, mais évidemment, on peut retrouver une avalanche d'idées qui peut finalement mettre à profit ces principes d'innovation. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment d'utiliser cette matrice. Ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est tout d'abord, tout simplement, d'identifier une contradiction sur l'un de vos produits, puis de traduire cette contradiction en utilisant les paramètres standards que nous avons vus. Alors pour ça, vous pouvez télécharger la liste qui est juste au-dessous de cette vidéo. Ensuite, vous pourrez utiliser la matrice pour identifier les principes d'innovation. Donc vous pouvez aussi la télécharger au-dessous de cette vidéo. Et enfin, il vous restera plus qu'à transposer ces principes à votre cas et imaginer de nouvelles solutions. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous souhaite un bon exercice et à bientôt dans la prochaine vidéo.